Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, il y aura Day of the Tentacle, Arcanoid Returns, Dragon Blaze, un dossier sur le FM Towns, la deuxième partie du test de Demon Front et la démo Speed des groupes Sim, Drake et Codex. Bienvenue sur Rétrovision. Rétrovision est de retour après une petite pause hivernale bien méritée. En espérant que tout va bien de votre côté, voici le premier épisode de l'année 2013 avec une formule classique. Et on commence comme il se doit avec un point and click de gros calibre, Day of the Tentacle de LucasArts, sorti en 93 sur PC.
Aha, a secret passage. This is all too easy.
Ce titre est la suite directe de Maniac Mansion. On y retrouve Bernard, l'intellectuel, Huggy, le rocker bien portant, et Laverne, une jeune fille légèrement psychopathe, sans oublier le docteur Fred Edison, un savant travaillant comme un fou dans son laboratoire.
Laverne, how'd you get upstairs?
Am I upstairs? I got lost.
Nos trois anti-héros vont se retrouver dans une situation plutôt cocasse, puisqu'ils se retrouvent simultanément au même endroit, mais à une époque différente, suite à un incident technique. En effet, Huggy, Laverne et Bernard auront pour mission de désactiver le pullomatique, le système de filtrage du docteur Fred, qui pollue les rivières. Et c'est justement à cause de cet appareil qu'un tentacule de couleur mauve s'est mis dans la tête des projets diaboliques après avoir avalé une gorgée de cet horrible déchet toxique.
Take on the world.
Vous l'aurez compris, Day of the Tentacle possède un scénario à l'image de ses actions à effectuer, c'est-à-dire complètement barré.
Look, Huggy, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow.
Tout comme dans Maniac Mansion, vous contrôlez trois personnages à la fois avec un système d'échange d'objets en utilisant le chrono WC. Il faudra faire aussi attention aux actions effectuées dans le passé qui auront bien évidemment un impact sur le futur. Pour résumer, Day of the Tentacle est un excellent jeu d'aventure. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur point and click de toute l'histoire, carrément. Avec son système Scum, des graphismes en 256 couleurs dans un style dessin animé, un humour omniprésent, des énigmes tordues, le tout doté d'une réalisation de très grande qualité.
Ew, it's soaking wet.
A noter aussi que la version CD-ROM était l'une des premières à offrir des dialogues parlés. Arcanoid Returns fait partie de la grande famille des casse-briques où le principe consiste à faire disparaître la totalité des rectangles colorés à l'aide d'une bille et d'une raquette que le joueur dirige de gauche à droite au niveau du bas de l'écran. Ce titre a été réalisé par Taito en 1997 et il fait partie de la vieille série d'Arcanoid. Alors pour reprendre vite fait, il est le quatrième de cette série et le troisième à avoir été développé sur arcade. La même année, Arkanoid Returns fut adapté sur PlayStation sous le nom d'Arkanoid R2000. Rien de bien nouveau donc, on reste dans du classique, le gameplay reste similaire, on se retrouve confronté au même ennemi, le Dow, et la raquette représente toujours le Voss. Malheureusement, la version arcade ne contient que 50 tableaux, avec un environnement différent au bout de 9 succès. Par contre, si vous aimez cette série et son côté un peu kitsch, Retrovision vous conseille le R2000 sur PlayStation qui contient un total de 200 tableaux, 3 boss, un éditeur de niveau et même la possibilité de jouer à deux simultanément. On n'a pas souvent l'habitude de voir des manic shooters sur Retrovision. Il faut dire que je ne suis pas particulièrement à l'aise avec ce style de jeu. Manque d'entraînement. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque, alors voici le superbe Dragon Blaze. Édité par Psykyo en 2000, cette société japonaise est reconnue pour ses nombreux shooters de qualité orientés Danmaku. Ce titre n'est donc pas un coup d'essai, mais malheureusement, il s'agit de leur dernière production. Nous voilà donc plongés dans un monde heroic fantasy aux commandes de puissants dragons, chacun monté par l'un des quatre personnages qui vous sont proposés, Quaid, Sonia, Rob et Tam. Le gameplay est comme à l'accoutumée chez Psykyo extrêmement précis et millimétré. Le masque de collision est différent selon si vous êtes positionné sur le dragon ou non. Le bouton A correspond au tir primaire, bouton C pour les smart bombs. Quant au bouton B, il permet de déclencher le Dragon Attack, une arme essentielle qu'il va falloir maîtriser à la perfection pour essayer de terminer le jeu en un crédit. Ce fameux Dragon Attack permet de se séparer du dragon. Celui-ci va aller se positionner et il restera immobile jusqu'à ce que vous le rappeliez avec une deuxième pression sur le bouton B. Il est possible de l'envoyer directement sur une cible ou de le placer à un endroit stratégique pour empêcher de faire apparaître les ennemis. Remarquez que dans ce cas, le dragon est totalement invulnérable. Il y a aussi un système de jauge, Magic, qui se remplit progressivement. Vous pouvez le déclencher en repressant le bouton A et faire un maximum de dégâts. Des tutoriels vidéo sont disponibles sur internet vous montrant comment bien se débrouiller lors de vos premières parties. Je pense notamment aux vidéos de boss qui sont très bien expliquées avec des ralentis pour bien analyser les positionnements. Mais si j'ai bien compris, l'une des techniques est de détruire les ennemis de taille moyenne avant qu'ils aient le temps de vous tirer dessus avec le Dragon Attack. Évidemment, cela demande d'apprendre par cœur les patterns adverses ou d'avoir de bonnes anticipations. Dragon Blaze est un excellent shooter doté de magnifiques graphismes et d'effets sonores de haute qualité. Même si la difficulté semble excessive, il est tout à fait réalisable avec un entraînement rigoureux et la compréhension des différentes attaques. Continuant sur sa lancée des ordinateurs personnels grand public, Fujitsu créa la série FM Towns en février 1989, une gamme d'ordinateurs résolument tournée vers le multimédia. En 1991, Fujitsu décida de décliner sa plateforme multimédia sous forme de console. La Marty, tel fut son nom, était une machine basée sur l'architecture du FM Towns. Processeur 388 à 16 MHz, 2 mégaoctets de RAM, CD-ROM, possibilité de brancher manette, clavier et souris. Étant dérivée du PC, la Marty fut donc la première véritable console 32 bits du marché. N'en déplaise à Commodore avec son Amiga CD32. La machine de Fujitsu accueillit en son sein de très nombreux jeux, dont de prestigieuses licences issues du monde micro, ainsi que des conversions d'excellente qualité de jeux d'arcade. On pourra citer pêle-mêle Afterburner, Alone in the Dark, Bubble Bobble, Flashback, Prince of Persia et même Shadow of the Beast. Malgré ses atouts très intéressants, la Marty fut un échec commercial, principalement plombé par un prix de vente excessif, 98 000 yens, ce qui fait environ 750 euros. Les joueurs préféreront se tourner vers des systèmes certes moins puissants, mais surtout moins onéreux, tels que la Mega Drive ou la Super Famicom. Profitant de sa longue expérience en informatique, Fujitsu nous concocta une console puissante et fiable. Mais à une époque où l'informatique grand public n'était réservée qu'à une élite fortunée, la firme gâcha une idée pourtant excellente. Deuxième partie du test de Demon Front, ce superbe run and gun édité par IGS sur le système PGM. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur les deux derniers niveaux, ainsi que sur l'aspect technique, puisque nous avons déjà parlé de son gameplay extrêmement jouissif lors d'un précédent Retrovision. Une fois les trois premiers niveaux terminés, les deux derniers deviennent maintenant accessibles et la difficulté est nettement plus élevée. Graphiquement, pour de la 2D, c'est une réussite totale. Les décors sont sublimes, variés, colorés, hyper détaillés, avec un aspect aventure très intéressant. Les animations sont parfaitement fluides et ne souffrent presque d'aucun ralentissement. De plus, les environnements regorgent d'animations en tout genre, rendant le tout très dynamique. Et tout ceci a été programmé sur une architecture 16 bits avec un processeur Motorola 68000. Petit bémol par contre, musicalement parlant. Il est clair que les concepteurs n'ont pas concentré leurs efforts sur cet aspect. De toute façon, bruitage masque presque complètement les musiques. Et comme si cela ne suffisait pas, Demon Front contient de nombreux chemins alternatifs et même quelques warp zones. De quoi donner envie de recommencer après avoir terminé une partie. Pour conclure ce long test en deux parties, on peut assurément affirmer que Demon Front est l'un des meilleurs run and gun de l'histoire. Il y a certes quelques ressemblances avec Metal Slug, mais son système de jeu est bien différent. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est tout simplement de l'essayer. C'est déjà la fin de ce cinquième épisode. En espérant que vous avez aimé cette sélection, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Mais avant cela, voici la traditionnelle démo intitulée Speed des groupes Sim, Drake et Codex sur Amiga. À très très bientôt sur Rétrovision. Thank you.